on a décidé un petit peu avec Caroline et les camarades de l'après-midi de changer un peu le thème, parce qu'on s'était dit que dans la matinée on serait pas mal revenu sur l'état d'urgence passé, et que ce serait peut-être opportun de faire le point sur le projet de loi qui a été adopté par la commission paritaire mixte la semaine dernière, il y a une semaine tout juste, quelque chose comme ça, la dernière loi, la loi renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme, qui est d'une certaine manière la septième et ultime reconduction de l'état d'urgence. Donc, mais j'en profiterai pour faire quelques incursions vers le passé et revenir un peu sur les points qui peut-être n'ont pas été parfaitement, enfin suffisamment vus ce matin sur l'état d'urgence. Ici. Voilà. Donc vous, peut-être celles et ceux qui sont là s'intéressent à la question et donc savent que l'état d'urgence a été reconduit pour la sixième fois et officiellement certainement la dernière de cet épisode le 11 juillet 2017 pour jusqu'au 1er novembre, donc la semaine prochaine, sachant que c'est censé être la dernière reconduction vu que une loi va être adoptée définitivement. Alors on ne sait pas encore si le Conseil constitutionnel va ou non être saisi, mais en tout état de cause elle va être adoptée, qui fait entrer dans ce qu'on appelle le droit commun un certain nombre de dispositions qui avaient cours sous l'état d'urgence. Alors juste avant d'en venir et d'essayer de pointer du doigt les quelques dispositions de cette loi qui me paraissent intéressantes, je voudrais juste faire quelques remarques préliminaires. La première, c'est que je vous l'ai dit, donc il y a eu six prorogations, bon, c'est un mot juridique pour dire prolongation, hein, prorogation de l'état d'urgence successive depuis son entrée en vigueur par un décret donc présidentiel. Et comme ça a été dit ce matin, mais je voudrais quand même insister là-dessus parce qu'en fait, tout ça, c'est évidemment un processus. Sur les six lois de prolongation, trois d'entre elles véritablement modifient assez profondément le régime même de l'état d'urgence. Et je me souviens plus, donc l'état d'urgence est décrété par le président de la République le 14 novembre et la loi vient prendre le relais le 20 novembre, comme vous l'avez très bien expliqué ce matin. Mais cette loi, elle ne fait pas que proroger l'état d'urgence, elle en modifie de manière assez considérable la teneur. Et ça, en réalité, je pense que ça n'a pas été suffisamment souligné parce qu'on était un peu sous le... à l'époque... ça n'a pas été suffisamment souligné parce que le fait le plus marquant, c'était cette prorogation de l'état d'urgence. Mais le régime a été modifié, notamment par exemple le régime, enfin pas par exemple, mais en particulier le régime des assignations à résidence a été considérablement durci. Puisque dans la loi de 1955 d'origine, si je puis dire, il n'était pas possible d'assigner à la maison. C'était dans un périmètre à peu près comme ça va être dans le redevenir dans le droit commun actuel. Donc peu importe les détails... enfin, pas exactement peu importe, mais disons, ce que je voudrais dire ici, c'est que déjà, on a modifié le régime de l'état d'urgence sous état d'urgence. Et ça, en fait, ça ne se fait pas dans un état de droit. On est sous l'état d'urgence, par une décision du président, on ne modifie pas le régime de l'état d'urgence sous état d'urgence. Ça, c'est un peu... Déjà, ça partait mal. Hein, ça n'a pas très très bien continué non plus puisque donc cette loi du 20 novembre qui encore une fois c'est pas des petites modifications, c'est des modifications assez lourdes et elles se sont reproduites donc sur les six lois en gros il y en a trois qui viennent apporter qui aggraver d'une certaine manière le régime de l'état d'urgence, notamment celle de juillet 2016 qui accorde au préfet la possibilité de créer des zones où les flics peuvent opérer des contrôles d'identité aléatoires, enfin, sans avoir à se justifier sur les individus. Ça aussi c'est très très grave. Ah, modification du régime de l'état d'urgence, sous état d'urgence. Ça déjà, du point de vue du principe, hein, si on pense que l'état de droit a un sens, ça en principe, si on est dans un état de droit, ça se fait pas. Donc ça c'était la première chose que je voulais dire. La deuxième c'est que on nous a expliqué, enfin pas on, en particulier le Conseil d'État nous a expliqué assez doctement depuis le début de l'état d'urgence que tout ça c'était possible, hein, que c'est toutes ces prorogations et toutes ces mesures qui donnent des pouvoirs exorbitants à l'exécutif, puisque c'est de ça dont il s'agit, une concentration de pouvoirs de police administrative entre les mains des préfets et des agents du ministère de l'Intérieur, parce qu'il faut aussi un peu dépersonnifier les choses, ministère de l'Intérieur, mais en fait agent du ministère de l'Intérieur et préfet, ce qui est un peu d'une certaine manière la même chose, donc c'est-à-dire donner des pouvoirs exorbitants à un petit petit groupe d'individus très 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 proches, presque même la quintessence du pouvoir exécutif. Et on nous a expliqué que tout ça c'était possible, ça posait pas tant de problèmes que ça, parce que ça avait un caractère provisoire. C'est pas grave, c'est provisoire. Et le Conseil d'État, qui a examiné à chaque fois, puisque c'est une de ses missions, le Conseil d'État à la fois, il est le juge suprême de l'ordre administratif, et j'en dirai peut-être un mot tout à l'heure, donc il est le juge des décisions administratives, mais il est également le conseil de l'État, et donc quand l'État va prendre des lois importantes, il demande au Conseil d'État un petit conseil. Et le Conseil d'État rend un avis, et à chaque fois, quand on lui a demandé qu'est-ce que tu en penses de cette idée de proroger l'état d'urgence, et au passage d'ailleurs d'en modifier assez considérablement le régime, à chaque fois il a dit bon, il a été tout à fait conciliant, mais il a quand même essayé de souligner, bon oui, mais n'oubliez pas quand même, l'état d'urgence c'est censé être, ça marche ce que vous nous proposez, parce que c'est provisoire, et il faut à chaque fois que vous essayez de caractériser le péril imminent qui justifie la prorogation de l'état d'urgence. Et à chaque fois, ils n'ont pas eu tellement de difficultés, d'ailleurs c'est très intéressant, les justifications de cette caractérisation du péril imminent qui justifie qu'on maintienne cet état dérogatoire. Alors parfois c'est des trucs de foot, enfin, des compétitions sportives, des trucs de foot, le marché de Noël aussi, hein, donc le sport, hein, la consommation, le marché de Noël, la consommation de tout ça. Alors, et après dernièrement, et ça on en parlait ce matin, la consultation électorale. Ça c'est quand même magnifique, parce que ça aussi ça n'a pas évoqué, à mon avis ça n'a pas ému suffisamment les individus, mais organiser des élections sous état d'urgence, aussi pareil, dans un état de droit, en principe, ça pose des petites questions, puisque le pouvoir exécutif a plus de, justement, de prérogatives et peut interdire des manifestations, etc., enfin, tout ce que vous savez. Donc, à chaque fois, on a trouvé quelque chose pour justifier la nécessité de proroger ce texte censé être purement provisoire. Et dernièrement, la dernière loi de reconduction, comment ça a été justifié? Parce qu'il n'y avait pas eu, il n'y avait plus de marché de Noël, il n'y avait plus de compétition sportive, etc. Les élections étaient passées. Donc ça a été justifié, quand on regarde le texte, par toute une série d'événements, qu'on peut qualifier d'attentats si on veut, je ne sais pas, d'attentats terroristes, je ne sais pas. Donc il y a toute une liste. Donc je vais vous épargner, mais en gros c'est quand même pas inintéressant, parce que peu importe les dates, donc le 3 février un individu attaqué à la machette un groupe de militaires, donc c'est un individu tout seul, c'était dans l'histoire dans le carrousel du Louvre. Le 18 mars à l'aéroport d'Orly, j'ai fait un copier-coller des trucs de l'Assemblée, c'est encore à une patrouille de militaires que s'en prenait un individu, lui aussi seul et armé d'un militaire à Grenaille. Le 20 avril, à Grenaille,
un revolver, pas d'un militaire.
Ah oui, un revolver à Grenaille. Le 20 avril, sur les Champs-Élysées, la plus grande avenue de France, c'est un équipage policier qui est pris pour cible par, encore une fois, un individu armé, blablabla. Le 6 juin, devant Notre-Dame, encore un individu. Donc, ce qui est quand même la liste des 5 ou 6, vous les qualifierez comme vous voulez, enfin, en tout cas, types qui attaquent des militaires à chaque fois, qui ont été qualifiés d'attentats, c'est un individu tout seul, bon, qui parfois était signalé ou pas, mais c'est quand même des individus très isolés, donc je ne sais pas s'il est possible, via les mesures de l'état d'urgence, enfin, si je sais, mais de les prévenir. Donc, voilà comment ça a été justifié. Finalement, il n'y a pas. Si on va par là, ça sera tout le temps justifié, parce que de temps en temps, on trouvera toujours un farfelu pour aller attaquer à la machette d'autres types de farfelus. Mais on nous explique doctement dans les rapports de l'Assemblée nationale que l'état d'urgence n'a pas été conçu donc comme un instrument de lutte contre le terrorisme, ça c'est clair, mais on s'aperçoit quand même que les deux s'articulent bien, la lutte antiterroriste et l'état d'urgence. Mais on va sortir de l'état d'urgence, parce qu'il n'a pas vocation à s'installer durablement. Ça, c'est clair et c'est net. Parce que c'est un texte provisoire. Alors, si on lit les exposés des motifs de Colomb, c'est d'ailleurs assez clair. On va sortir de l'état d'urgence, mais on va adopter une loi, hein, qui en reprend les principales dispositions et qui va rester pour toujours, enfin, jusqu'à ce que sais pas si c'est le changement de régime, mais qui a vocation en tout cas à avoir un caractère pérenne, ce qui pose quand même un certain nombre de problèmes par rapport aux justifications antérieures. C'est ce que vous parliez d'enfumage tout à l'heure, là c'est magnifique, on est vraiment dedans. Alors avant, encore une fois, dernière petite remarque préliminaire, et parce que je pense que c'est pas du tout un détail, ou si c'est un détail, comme toujours le diable se cache dans les détails, la procédure selon laquelle cette loi vient d'être adoptée, elle a été adoptée par la commission paritaire mixte, donc on peut considérer que ces termes sont définitifs. Alors, comme toutes les lois de prorogation d'état d'urgence du reste, et toutes les lois répressives dont Olivier parlera tout à l'heure, qui s'empilent depuis un certain nombre d'années, mais dont le rythme s'accélère de plus en plus, à chaque fois, ce sont des textes qui sont adoptés selon la procédure accélérée. Alors qu'est-ce que ça veut dire la procédure accélérée? Vous savez que le principe c'est quand même qu'il y a une discussion entre les deux chambres du Parlement et que ça donne un certain temps de discussion, de débat, d'amendement. Ça donne aussi le temps à ce qu'on appelle la société civile, c'est un peu aussi une tarte à la crème comme la population dont on parlait tout à l'heure, mais ça donne quand même le temps au moins aux journalistes et donc aussi au peuple, moi je préfère cette expression, de s'emparer un peu de la question et de débattre. Là, avec la procédure accélérée, c'est une lecture par chaque chambre, donc une seule navette, enfin, je ne sais pas si du coup on appelle ça une navette, mais hop, le Sénat ou l'Assemblée commence, elle s'arrête sur un texte, ensuite c'est l'autre chambre qui se penche sur le texte, et en gros il faut qu'il en sorte un texte commun rapidement, sinon en plus dans le cadre d'une commission paritaire mixte, et après, hop, les deux chambres votent le texte. Et je crois que si elles n'arrivent pas à se mettre d'accord, le gouvernement dit que c'est l'Assemblée qui a le dernier mot. Donc en plus, un truc comme ça, non? Donc en fait, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une mesure expéditive, et là, en l'occurrence, cette loi-là, je vais finir par dire quelques mots, c'est une loi quand même très importante, parce qu'on sans parler de changement de paradigme, c'est quand même une loi très importante, qui a été adoptée donc déposée, je reviens pas sur toutes les lois antérieures sécuritaires, mais le projet de loi a été déposé le 22 juin 2017 sur le bureau du Sénat, donc un mois quasiment après l'élection du président de la République. Le 28 juin, la procédure accélérée a été décrétée, donc quelques jours après, hein, et une séance publique commence au Sénat le 18 juillet. Je m'en souviens parce qu'avec quelques camarades, on a fait un petit texte pour dire non, là vraiment, quelques camarades universitaires, en disant ben non, là quand même, c'est un petit peu gros, votre affaire, ça ne peut pas aller comme ça si vite. Mais donc, en un mois, le texte était déposé au Sénat, qui a discuté, il y a eu une séance publique le 12 septembre. Une séance publique au Sénat de discussion le 12 juillet, et le texte est adopté en une journée de discussion au Sénat, et après le travail de la commission des lois de l'Assemblée nationale a commencé à ce moment-là, et c'est à la rentrée, donc là on est en plein mois de juillet en plus, hein, donc et tout le monde s'en fout réellement d'ailleurs, ça a à peine de l'écho dans les médias. Et là, à l'Assemblée nationale, il y a eu quatre jours de débat avec à chaque fois une ou deux séances dans la journée. Parfois, les débats commençaient à 4h de l'après-midi et tout ça. 25, 26, 27, 28 septembre. Quatre jours de débat pour une loi qui est quand même d'une importance fondamentale. Alors après, on peut dire ce qu'on veut, mais ça pose quand même des questions qui me semblent être essentielles, au-delà même du texte en question. Et puis après, pof, la commission paritaire mixte n'a trouvé aucune difficulté à s'entendre, et la loi a été adoptée, votée à l'Assemblée le 11 octobre, et par le Sénat le 18 octobre, donc c'est bon. Donc en gros, 4 ou 5 jours de débat pour une loi dont on peut penser qu'elle va réduire de manière assez importante et dans la durée nos libertés individuelles. Alors, les principales mesures prévues par le texte, rapidement avant de venir dans le détail, pour vous donner un tableau d'ensemble, c'est l'instauration d'abord d'un périmètre de protection, c'est une zone dans laquelle le préfet va pouvoir réglementer la circulation des personnes, ça c'est quand même une vraie nouveauté dans ce qu'on appelle le droit commun et qui est, à mon avis, très, très dangereuse. La possibilité pour le préfet de fermer des lieux de culte, et on imagine lesquels. Les mesures individuelles de contrôle administratif et de surveillance, c'est-à-dire une nouvelle forme d'assignation à résidence, enfin, pas tout à fait nouvelle, mais des assignations à résidence, nouvelle version. Et puis, alors les perquisitions, ça s'appelle plus des perquisitions, hein, ça s'appelle des visites. On connaît ce goût de l'euphémisme, mais c'est aussi très important, très intéressant. Donc, c'était dans le projet de loi initial, c'était visite domiciliaire. Donc là, ils sont passés à visite, tout court, je ne sais pas pourquoi. Donc, c'est une petite visite que pourront vous rendre les forces de l'ordre. Voilà, c'est voilà, les visites et les saisies qui vont avec, évidemment. Une petite louche sur les techniques de renseignement, parce que quand même, on va rater l'occasion. Et puis, quelques possibilités étendues de faire des contrôles d'identité dans les zones frontalières, dont l'acception de zones frontalières est assez vaste. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire sans trop dépasser mon temps. Avant d'examiner une ou deux de ces mesures, parce que je n'aurai pas le temps de les voir toutes, je ne sais plus déjà à quelle heure j'ai commencé, l'un des intervenants le disait ce matin.
Vous avez encore dit.
Ah, ça va. L'un des intervenants ou des intervenantes le disait ce matin, une des raisons pour laquelle on nous dit que non, pas du tout, ce nouveau texte n'est pas une transposition de l'état d'urgence dans le droit commun, il a une vocation beaucoup plus réduite, je crois que c'est toi Vanessa qui le disait ce matin, c'est uniquement pour lutter contre le terrorisme. Donc ne vous inquiétez pas, puisque personne dans cette salle n'est terroriste, donc il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, ne vous inquiétez pas. La finalité du texte, la visée, et donc les personnes concernées sont bien délimitées. Bon, je pense qu'on l'a dit pas mal ce matin, et Olivier le redira bien mieux que moi, l'objection ne convainc pas, hein. On ne s'en sent pas du tout rassuré dans la mesure où il n'y a pas de définition claire de l'incrimination terroriste en droit français, ou au contraire, pour être honnête, il y en a beaucoup trop. Hein. Il y a énormément d'infractions qui, si elles sont commises intentionnellement dans l'objectif de troubler leur public par l'intimidation ou la terreur, deviennent des actes terroristes, hein, parce que c'est comme ça qu'on fait, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... C'est des infractions de droit commun qui passent dans le volet terroriste à partir du moment où elles sont commises intentionnellement dans l'intention de troubler l'ordre public par l'intimidation ou la terreur. Et parmi, j'en prends une, je crois qu'il y en a une centaine, je parle sous ton contrôle, d'infractions qui peuvent devenir des infractions terroristes maintenant. Mais si on fait tout,
ouais,
tout. Si on compte tout, il y en a une qui est pas mal, je trouvais par exemple, c'est donc dans le code pénal, hein, le fait de tracer des inscriptions, des signes ou des dessins sans autorisation préalable sur des façades ou du mobilier urbain, ça, si vous le faites intentionnellement, dans l'objectif de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur, ça peut vous valoir des poursuites pour acte terroriste. Donc on n'a pas, donc l'infraction, elle est complètement spongieuse, et je passe sur j'évoque aussi évidemment l'association de malfaiteurs en vue d'une entreprise terroriste, qui, je ne sais pas si vous la connaissez, mais en fait si on pense que l'infraction terroriste en général est définie de manière floue, là c'est à peu près, là, c'est la possibilité pour le juge, jusqu'alors le juge judiciaire, de poursuivre à peu près n'importe qui n'importe quelle personne qui se regroupait à deux et qui, sous couvert d'actes préparatoires qui ne sont pas vraiment définis par la loi, projetterait un acte terroriste dont il n'y a pas besoin de savoir vraiment lequel il est. Donc ça permet de poursuivre, en tout cas de manière préventive, mais ça Olivier le dira bien, à peu près, franchement, sincèrement, à peu près n'importe qui. Mais ça c'est important, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et alors ça c'est mon opinion et je la partage, et je sais qu'elle n'est pas... c'est pas celle de tous les juristes, mais je pense que le texte de la loi permet déjà, indépendamment d'état d'urgence, si on reste dans le strict domaine de la loi pénale, elle permet déjà de poursuivre, voire d'incriminer à peu près n'importe qui. Et ce qui fait que c'est pas le cas, ce qui fait que c'est pas n'importe qui, c'est juste un rapport de force sociale. Et il y a des individus qui, dans la société, c'est sûr que quand on est prof de droit, c'est plus facile d'opposer une certaine résistance sociale à une incrimination de terrorisme. Mais que quand on est aujourd'hui, quand on est un prolétaire, qu'en plus on est musulman et qu'en plus éventuellement on est anarchiste. Alors là, c'est beaucoup plus difficile. Mais on est dans là-dedans. Hein, c'est-à-dire que si aujourd'hui la loi est utilisée, les textes permettent tout. Et on est vraiment dans le rapport de force. Si aujourd'hui c'est pas la façon dont elle est appliquée, tient à un rapport de force sociale. En tout cas, c'est mon avis. Donc, le bémol, qui nous, ce qu'on nous dit, c'est-à-dire que finalement cette loi n'est pas une transposition de l'état d'urgence parce que ça vise que les terroristes, c'est pas quelque chose de convaincant, parce qu'il n'y a pas de définition claire du terrorisme, et parce qu'en plus, et là j'y viens, parce qu'en plus, les mesures, le texte de la loi est, rédigé de manière tellement large que il n'y a pas de protection suffisante pour le citoyen. Voilà. Je voulais vous dire deux mots du code de la sécurité intérieure, parce que toutes ces mesures, toutes ces jolies mesures dont je vais vous parler, vont prendre place dans le code de la sécurité intérieure, qui est quand même une merveille du genre. Je ne vais pas avoir le temps de vous l'expliquer, mais en gros, c'est un code qui a été créé dans les années 2010-2012, et donc pour réunir un peu tous les textes sur la sécurité intérieure, en fait c'est une sorte de fourre-tout avec pas mal de choses, mais donc ce code de la sécurité intérieure, donc c'est quand même assez incroyable aussi qu'on ait un code de la sécurité intérieure en France. Enfin, je sais pas, moi je trouve ça un peu incroyable. Et donc il s'ouvre par ce magnifique article L111-1, parce que c'est comme ça maintenant qu'on fait. Le premier article, c'est pas l'article 1, ce serait trop simple, c'est l'article L111-1. C'est aussi ça, c'est une simplification de juriste, vous pouvez pas comprendre. Et ça commence comme ça. La sécurité est un droit fondamental et l'une des conditions de l'exercice des libertés individuelles et collectives. Voilà, donc je me limiterai à ce préliminaire. Et voilà, donc toutes les dispositions là de cette loi nouvelle vont prendre place dans le code de la sécurité intérieure. Alors, je vais peut-être en choisir une ou deux. Peut-être le périmètre de protection qui est peut-être le plus novateur, si j'ose dire. Donc, si je le lis... en gros, donc ça va être le chapitre 6, un nouveau chapitre 6 dans un titre sur du code de la sécurité intérieure sur la protection de l'ordre public. Donc, afin d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'acte de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation, bien le représentant de l'État, le préfet, peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l'accès et la circulation des personnes sont réglementés. C'est-à-dire, alors, afin d'assurer la sécurité d'un lieu ou d'un événement exposé à un risque d'acte de terrorisme, à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation, le préfet peut instaurer un périmètre de protection. Alors, moi, ça me paraît extrêmement vague. Donc, un lieu exposé à un risque d'acte de terrorisme à raison de sa nature et de l'ampleur de sa fréquentation. Est-ce qu'on ne pourrait pas considérer qu'aujourd'hui, la réunion qu'on a, elle est un peu subversive? Parce que je sens beaucoup de regards gauchistes qui se posent sur moi. Et est-ce qu'on ne peut pas considérer que, finalement, on s'expose à un risque d'attentat terroriste et que, donc, du coup, nous allons devoir nous soumettre à un certain nombre de mesures... donc attentatoire quand même à nos libertés. J'évoquais ce cas où l'espace serait bien délimité, mais quand on lit le texte, ça peut être n'importe quel endroit, comme quand les forces de l'ordre faisaient les rafles à Barbès. C'est-à-dire que ça peut être dans l'arrêté du préfet, un périmètre délimité entre la rue machin. Ça, c'est le périmètre de protection. Il n'y a pas besoin que ce soit quelque chose de clos, comme un stade de foot ou je ne sais pas quoi. Hein. Ça peut être n'importe quoi. Et donc, le texte dit que l'accès et la circulation des personnes vont être réglementés. Qu'est-ce que ça veut dire ? Heureusement, ça veut pas dire que ces personnes seront obligées de se soumettre à un contrôle d'identité. En tout cas, pas tout de suite. Pour l'instant, en première intention. Pour l'instant, on en est aux mesures de palpation de sécurité, c'est-à-dire en gros comme ça, là. Inspection et à l'inspection et la fouille des bagages. Alors, ce qui peut poser beaucoup plus de problèmes, puisque à partir du moment où on va regarder dans vos bagages, s'il se trouve qu'il y a, par exemple, je sais pas moi, n'importe quoi qui peut donner à, par exemple, je sais pas moi, une substance. Comment on dit, une substance illicite, là, si vous avez un petit pétard dans votre sac, par exemple, eh bien, non, un pétard qui se fume, je veux dire, eh bien, vous pourrez, à ce moment-là, il y a un PV qui va être dressé par l'officier de police, transmis au procureur, et donc là, s'ouvre éventuellement une procédure judiciaire, et par exemple, vous pourrez être amené à justifier de votre identité. Et si vous êtes un étranger, vous devrez non seulement justifier de votre identité, mais aussi de votre carte de séjour, parce qu'on sait aussi tous, évidemment, des personnes qui sont visées derrière tout ça. Alors, qui pourront effectuer ces gentilles palpations de sécurité et ces fouilles ? Donc, c'est non seulement les agents de police, et les gendarmes, bien sûr, mais aussi les agents de police municipaux et aussi avec l'accord du maire, ça c'est nouveau et c'est aussi, ça fait partie quand même des tendances lourdes qui sont problématiques, les agents privés de gardiennage, hein, qui jusqu'alors étaient cantonnés, pouvaient faire ce genre de contrôle, mais uniquement dans, des, dans les zones où ils étaient dans les zones d'endroits privés, quoi. Là maintenant, ils pourront, donc c'est la, les milices, ben, pas les milices, mais c'est les agents privés qui participeront à, au maintien de notre ordre public. Voilà. Alors, avec fouille des véhicules aussi qui stationnent ou qui circulent dans la zone. Donc, en gros, ça, ce qui est marrant, c'est que donc, le texte dit donc, que c'est avec l'assentiment des personnes. Donc, vous pouvez refuser de vous faire palper par un agent privé de sécurité. Mais à ce moment-là, soit si vous êtes déjà sur zone, comme on dit, eh bien, vous devrez quitter la zone. Soit si vous n'êtes pas encore sur zone et que vous aviez envie d'accéder à la zone, vous ne pourrez pas y accéder si vous refusez donc, de vous soumettre à une palpation de sécurité et à la fouille de vos bagages. Mais moi, ce qui m'inquiète un peu, notamment à la lecture du texte, par exemple, c'est que est-ce que les gens vont être avertis du fait qu'ils ont le droit ou pas de se soumettre à cette... Est-ce que les agents de police vont dire « Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger, est-ce que vous seriez d'accord pour qu'on effectue sur votre personne une petite palpation de sécurité ?» Je ne sais pas si ça va se passer exactement comme ça. Je ne sais pas, j'ai pas ce pressentiment-là. Mais bon, il faudrait quand même imaginer une procédure pour que, le consentement est une réalité, il faudrait que les agents de police soient tenus d'informer, ça ne figure pas dans la loi, tenus d'informer la personne de sa possibilité de refuser. Ou alors, je ne sais pas, ou alors j'ai rien compris au schmilblick, mais ce n'est pas dans la loi. Alors, en revanche, le petit truc un peu nouveau entre le projet de loi initial et celui qui a été voté, c'est la limite dans le temps. La durée maximale, il y a une durée maximale, ce qui n'était pas le cas au début, d'un mois. Enfin, donc, le périmètre pourra être établi pour un mois, mais il sera renouvelable quand même, un mois renouvelable. Donc c'est, bon, c'est un peu... bon, ça oblige quand même à justifier à nouveau de la motivation. C'est pas complètement rien quand même. Voilà. Alors... J'aurais pas le temps de faire ce que je voulais faire, mais c'est pas grave. Si ça vous intéresse, on posera des questions. De toute façon, le texte est accessible en ligne. Mais je voudrais faire deux remarques un peu en forme de conclusion qui valent à peu près pour la plupart des mesures qui vont être vues après. La première remarque, c'est que le droit commun antérieur, celui qui avait cours jusqu'à l'entrée en vigueur de la prochaine loi, était largement suffisant pour arriver à un résultat similaire. Puisque depuis un certain temps déjà, le procureur de la République peut délimiter un périmètre à l'intérieur duquel les forces de police vont pouvoir faire tout un tas de palpations corporelles et même de contrôles d'identité sans avoir à justifier de quoi que ce soit, soi-disant pour la recherche d'infractions, etc. Bon, c'est vrai que c'était plus limité dans le temps parce que je crois que c'est 24 heures maximum. Mais c'est, si on a envie comme ça d'instaurer des zones où on pense qu'il y a une menace terroriste imminente, grave, etc., et qu'il faut instaurer des contrôles, le droit commun avait déjà des moyens. Et j'en propose de faire quand même un petit rebond sur la différence entre le juge judiciaire, donc qui aurait été compétent pour suivre les mesures là dont je vous parlais, si elles avaient été prises dans le cadre du droit commun, alors que après ce sera le juge administratif qui va contrôler. Qui contrôlera notamment la décision du préfet. Je ne sais pas après si c'est le juge administratif qui contrôlerait toutes les décisions.
Non, pas toutes. Ouais,
mais on parle de juge administratif. Alors pour les juristes, c'est peut-être évident. Mais quelle est la différence entre le juge administratif et le juge judiciaire? C'est pas uniquement une différence de compétence. L'une qui, le premier étant le juge judiciaire étant compétent pour punir et enquêter sur les crimes, et le juge administratif plutôt pour prévenir les troubles à l'ordre public. C'est pas uniquement ça la différence, c'est aussi une différence de culture. D'abord, les juges administratifs ne sont pas des magistrats au sens strict du terme, hein, ils n'ont pas l'indépendance dont jouissent les magistrats du siège, ça c'est quand même très important, et même si l'indépendance dont les magistrats du siège jouissent, et là je parle encore une fois sous contrôle, est quand même tout à fait relative, mais elle est quand même garantie par la Constitution. Il y a quand même une différence de culture. Les magistrats administratifs, et en haut de l'ordre administratif, c'est le Conseil d'État. Le Conseil d'État, ce sont des énarques. Il y a un tiers du Conseil d'État qui est renouvelé par le tour extérieur, donc c'est des gens qui viennent des cabinets ministériels. C'est vraiment des gens qui sont très, 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 très proches dans leur ethos du pouvoir exécutif. des cabinets ministériels, etc. Alors, je ne veux pas dire que les juges de la Cour de cassation sont des anarcho-autonomes, c'est pas ça. Mais ils ont quand même, le juge judiciaire avait quand même jusqu'à, en tout cas, un certain temps, c'est quand même une forme de culture. On leur a appris quand même à l'école qu'ils étaient un contre-pouvoir, et quelquefois, ça leur fait plaisir de se penser comme des contre-pouvoirs. Chez les magistrats administratifs, pas du tout. Le bon magistrat administratif, c'est celui qui ne fait pas de vagues, et celui qui fait bien comme le chef lui a dit, ou la chef lui a dit qu'il fallait faire. Et ça, c'est vrai. Alors, ça change un peu. C'est pas évidemment, tout n'est pas blanc ou noir, mais il y a quand même, c'est quand même quelque chose d'important. Donc, il y a un contrôle plus important. Il y a une place plus importante qui est donnée au pouvoir exécutif et donc à l'administration, au juge administratif. Ça veut dire aussi un contrôle qui n'est pas exercé exactement dans le même esprit. Et je vais terminer juste avec un exemple sur cette zone de protection. Je termine. Elle existait déjà sous. Enfin, disons qu'il y avait un pendant de cette zone de protection établie par le préfet avec la loi de 55 modifiée sous l'état d'urgence. Et elle a été utilisée sous l'état d'urgence et largement détournée. Et un exemple très simple, très clair, quand la zone sud de la jungle de Calais a été évacuée, la préfète du Pas-de-Calais a adopté un périmètre établissant une zone de protection pendant quelques jours, le temps du démantèlement. Et ne pouvait plus accéder à la zone de démantèlement du camp que les assos agréées, et elle en avait agréé quelques-unes, les assos qui collaborent avec l'État dans sa politique migratoire de manière notoire. Donc celle-là, quelques journalistes, pareil, qui collaborent de manière notoire avec l'action de l'État, et je crois que c'est tout. Et donc, les avocats qui faisaient depuis quelques jours, depuis quelques semaines, depuis des mois même, des travaux d'accompagnement des gens pour demander l'asile, etc., les avocats n'ont plus pu avoir accès au camp le jour du démantèlement, ni les militants qui voulaient essayer de protester ou surveiller, etc. Personne n'a pu avoir accès au camp pendant le démantèlement. Alors, donc là, elle expliquait que, parce qu'il y avait beaucoup de no-borders qui allaient, pareil, mettre le bordel et qu'on avait autre chose à faire que s'occuper des no-borders, il fallait qu'on évacue les migrants. Donc vous voyez, il y a quand même des priorités. Et donc, il y a une action qui a été faite devant le tribunal administratif contre cet arrêté. Et la veille en référé, donc assez rapidement, et la veille de l'examen par le tribunal administratif de Lille de cet arrêté, la préfète l'a abrogé. Bah oui, elle l'a abrogé. Donc là, déjà, on voit aussi à quoi sert le droit. Mais là où le truc est encore plus pervers, c'est qu'elle l'abroge. Donc le tribunal administratif dit, bon, il n'y a plus, comme tu le disais très bien, il n'y a plus rien, il n'y a plus lieu de statuer. Sauf que dans les faits, sur la zone, il était toujours en vigueur. Donc le jour, le vendredi, je ne sais plus quoi, donc la fin de la semaine du démantèlement, l'arrêté était encore en vigueur. Donc on ne peut pas le contester parce que la veille, il est abrogé et dans les faits, il est toujours en vigueur. Donc c'est aussi les limites, on atteint, quand même, il faut quand même aussi qu'on réfléchisse aux limites des recours juridictionnels. Je ne dis pas qu'il n'en faut pas, je ne dis pas que le droit ne sert à rien, mais il ne faut pas non plus attendre des magistrats du droit plus qu'il ne peut donner. Voilà, merci, excusez-moi, j'ai été trop longue.